Et je revois mon produit, je revois mon équipe. Et c'est mon combat, il va être là maintenant, dans les semaines et les mois à venir, c'est essayer de remettre tout le monde dans le bateau.
Je vais juste te demander ce que tu as déjeuné ce matin. C'est juste pour régler le son. Je fais toujours ça.
Bah, je mange pas le matin en fait.
T'as rien du tout là.
Bah, j'ai mangé 2 barres de céréales sur la route. Parce que je suis allé faire du vélo. Je voulais courir, mais en fait, j'ai fait du vélo de salle parce qu'il pleuvait.
Ah oui, j'allais dire sous la pluie.
Non, et du coup, par contre, je bois 4 cafés le matin. Pas l'après-midi, sinon je dors pas.
4 cafés, ouais, c'est pas mal.
Bah là, j'en ai bu 2, du coup, c'est 2 là, ça fait 4.
Tu fais beaucoup de sport parce que tu parles du vélo.
Tous les jours.
Tous les jours.
Ouais.
Ok.
Tous les jours un truc.
Et depuis toujours ou
quand même depuis bien bien longtemps. Ouais. Ok. Ouais, je suis un peu hyperactif, mais bon, peut-être qu'on y reviendra. Mais ouais. Du coup, j'ai en général après le boulot, je commence tôt le travail et je finis tôt, enfin entre guillemets quoi. Je commence entre 7h et 7h30 et après entre 18 et 19h, je m'en vais et je vais faire une heure et demie de sport et je rentre chez moi 21h à peu près.
Sport, ça t'apporte quoi
Ça me permet de dépenser l'énergie que j'ai en trop et ça me permet vachement réfléchir en fait à tout. Du coup, je réfléchis à mes sujets du moment, à différents, tu vois, des stratégies, des je réfléchis à tout, en fait. En courant, ça me permet vraiment à la fois de m'évader, à la fois de me recentrer.
Mmh. Ouais. Ah oui, tu fais partie, parce que en fait, t'as 2 types de personnes dans le sport. Je trouve que t'as celles qui disent que ça leur permet, à l'inverse, de complètement couper.
Ouais.
Et de pas réfléchir.
Mmh.
Et t'as celles, effectivement, qui disent que ça permet de remettre un peu les idées au clair, prendre du recul sur les sujets en cours, quoi.
Bah moi, c'est un peu... ça dépend de la discipline. Moi, j'ai plein de disciplines différentes. Je fais du tennis, du badminton, de la course à pied, du vélo... Et en fait, ça implique pas les mêmes choses.
Ouais.
Tu vois, par exemple, tennis, badminton, bah là, ça va être le mental, tu vois. Et en ce moment, j'ai du mal à jouer au badminton.
Même la course, quand même.
Enfin... Ouais, mais c'est pas pareil, parce que, en fait, la course, ça va demander de l'endurance, tu vois. C'est du temps long, alors que le tennis, c'est une confrontation, ouais. Tu vois. Il y a un point, c'est un côté vraiment mental, je trouve, en course à pied. Bon, tu délivres, quoi. Tes muscles y partent. Bon, effectivement, il y a le fait que tu sois relâché, des choses comme ça. Mais le tennis, c'est plus difficile parce que t'es pas tout seul. Et le badminton, où je joue en double, c'est encore autre chose.
Ah oui, complètement.
Tu vois,
t'as le côté un peu collaboration.
Exactement. Et là, par exemple, il y a pas longtemps, tu vois, je disais, putain, j'ai l'impression que tout le monde a du mal. Et comme dit l'autre, quand tout le monde a un problème, c'est toi le problème. Donc du coup, je me suis rendu compte que, et des fois, j'arrête une discipline en me disant, je me sature pas et je reviens un mois après plus en forme.
Ah, parce que c'est intéressant ce que tu dis, quand tout le monde a un problème, ça veut dire que c'est moi le problème.
Effectivement, je me remets en question sur beaucoup de choses d'une manière générale et j'essaie toujours de prendre un feedback ou d'essayer de sur chaque situation, remettre un peu en perspective, et que ça soit sur le sport, dans ma vie personnelle, je prends beaucoup à ma charge les problèmes qu'il peut y avoir. Et là, par exemple, au badminton, je vais souvent jouer le vendredi, t'as une session, c'est moins bien, deuxième, troisième, et là, je commence à me dire, il doit y avoir un souci, parce que je sens que c'est pas tellement en termes d'efficacité, je trouve que, tu vois, le quatuor rentre pas dans la partie, tu vois. Et je trouve que je joue pas spécialement pour gagner, mais ce que j'aime, c'est le beau jeu. C'est, tu vois, c'est l'échange, c'est pas spécialement la confrontation, mais c'est que ça dure, c'est qu'il y ait du plaisir. Et quand ça fonctionne pas, là je prends plutôt ma part des responsabilités.
C'est comme quand dans une entreprise, en fait, finalement,
c'est
avec
pareil.
Tes collaborateurs, quoi.
Ouais.
On y reviendra du coup sur la gestion, etc. mais du coup, tu peux faire des ponts qui sont...
Ah ouais, tu peux faire des
ponts
complètement.
Qui sont hyper intéressants.
Ah mais moi, je trouve que d'une manière générale, en fait, on est dans notre vie... Enfin, si tu regardes quelqu'un qui est en train de prendre un café, quelqu'un qui est en train de courir, dans n'importe quelle circonstance, sur n'importe quelle discipline, c'est là où tu comprends la façon de fonctionner des personnes. Et c'est sûr que le sport, c'est, je trouve, une des meilleures manières de connaître quelqu'un, en fait. C'est de voir quelle discipline il fait. Comment il y trouve du plaisir, est-ce qu'il cherche à progresser, pas progresser, est-ce qu'il va d'une manière ludique, etc. Et je vois entre mon frère et moi, c'est pas du tout la même façon d'appréhender le sport.
Parce que ton frère, il le fait comment du coup?
Mon frère, lui, on joue au badminton ensemble. Lui, déjà, le badminton, ça lui suffit 1 à 2 fois par semaine. Et après, il cherche à progresser, mais il se met peut-être moins. moins d'exigences que moi. Donc, c'est deux manières différentes de fonctionner. Et en fait, tu te rends compte que dans le sport et même dans la vie d'une manière générale, on est vraiment diamétralement opposés. Mais après, ça se complète bien, parce que quand je joue avec mon frère, on joue bien ensemble. Donc, c'est là où je vois qu'effectivement, il y a notre part personnelle et notre part collective, parce que les différences font justement la richesse. Et avec mon frère, par exemple, quand on est au badminton, lui va plutôt être un joueur de filet, donc il va se mettre devant, petit coup, etc. Et puis moi, je vais dégrossir à l'arrière, ça veut dire que je vais courir gauche-droite, et je vais devoir pouvoir monter à l'avant plus facilement, parce que du coup, je suis plus léger, plus flexible. Et lui, il est plus grand, donc il a une plus grande agilité. Enfin voilà. Et ça crée un peu c'est ça qui crée la magie, je trouve.
C'est carrément vrai aussi dans le monde de l'entreprise où justement d'avoir des collaborateurs qui ont des profils complètement différents, des compétences complètement différentes, ça va vraiment apporter une dynamique à l'entreprise qui est hyper intéressante aussi quoi. Est-ce que Yann, tu peux te présenter déjà aux auditeurs qui nous écoutent?
Alors, je vais prendre plutôt des adjectifs pour me présenter. Donc, je vais déjà utiliser le mot épicurien, ouais. Je pense, parce que l'alimentaire, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Déjà, au niveau de la famille, parce que ma grand-mère a tenu une épicerie, mon père, il cuisine tout le temps. Enfin, voilà, on apprécie beaucoup. Mon grand-père avait un jardin. Enfin, voilà, ça fait vraiment partie de l'historique de la famille de Coq. Je dirais, comme dit mon père, l'art de la table, c'est vraiment une tradition dans la maison. Donc je dirais, voilà, épicurien, et en plus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi-même, j'ai d'un point de vue personnel, en termes d'alimentation, j'ai beaucoup évolué ces dernières années, parce que je me suis rendu compte quelle était ma consommation. Physiquement, j'ai vieilli aussi, il y a des choses que je peux moins faire ou plus faire.
Et c'est quoi qui a changé, par exemple, si je te parle de ce qu'il y avait dans l'assiette de Yann il y a 10 ans et ce qu'il y a dans ton assiette maintenant?
Il y a 10 ans, j'avais beaucoup de féculents, des pâtes avec beaucoup de fromage.
Des pâtes sauce gruyère, le plat basique.
Voilà, le plat classique, beaucoup de viande, parce que du coup, besoin d'énergie, donc beaucoup de viande. Il y avait un frigo, tu faisais vite le tour, quoi. Beaucoup de yaourt aussi, parce que j'adore ça. D'ailleurs, j'étais spécialiste chez Michel Augustin, j'empilais les petits pots de yaourt. J'arrivais, je pouvais manger un kilo vanille tout seul, quoi.
Okay.
Donc assez gourmand. Et aujourd'hui, tu vas retrouver beaucoup de légumes, ouais. Parce que maintenant j'achète beaucoup de légumes. J'ai pris plaisir à les cuisiner. Beaucoup moins de viande, quasiment très très peu de viande. Beaucoup de salades d'endives, beaucoup plus de saison, etc. Et j'ai pris vraiment cette culture qu'avait ma grand-mère, qu'avaient mes parents. Et c'est vraiment depuis ces 10 dernières années où j'ai fait vraiment un effort et je prends vraiment plaisir à avoir vraiment des choses diverses. Par contre, je garde toujours des petits plaisirs personnels, du sucré, faire des crêpes, des gâteaux, des cookies, des gaufres, tout en explorant de nouvelles choses. Donc, voilà,
et à partir de quel moment tu as eu ce déclic justement de changement d'alimentation? Quand est-ce que ça t'a pris?
Ça m'a pris parce que déjà, physiquement parlant, j'avais beaucoup plus de mal. Je me suis rendu compte, on parlait de sport tout à l'heure, en fait, en augmentant mes pratiques sportives, en fait, je me suis rendu compte que l'énergie, enfin du moins ce que je mangeais, avait un vrai impact. Et aussi, on peut parler aussi, par exemple, des boissons sucrées, de l'alcool, etc. Il y a un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tenir le rythme à la fois de faire beaucoup de sport et faire beaucoup de sorties. Enfin, du coup, beaucoup de sorties en buvant des bières, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un peu deux personnalités qui se battaient. Je dirais un côté le Yann festif et un côté le Yann sportif. Donc, j'ai dû essayer de réunir tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment adapté mon alimentation et mon hygiène de vie.
Et tu dis justement que la food a toujours fait partie un peu de ta famille, de tes racines. Mm-hmm. Toi, dans ton parcours, quand est-ce que tu as commencé à avoir ce lien avec la food? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours justement et de...
Alors moi, j'ai démarré... j'avais beaucoup de problèmes. J'avais des problèmes scolaires, parce qu'en fait, je suis un hyperactif avec trouble de l'attention. Donc, ce qui fait que...
Qui a été diagnostiqué...
Surtout par mon oncle Pascal.
Okay.
et en fait, même moi, c'est quelque chose où je me suis rendu compte quand même assez tardivement, en fait. C'est pas un trouble très grave, mais en fait, ça fait qu'en cours, si j'étais pas impliqué dans ce qui se passait dans le cours, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur ce qui se passait, et du coup j'avais beaucoup de mal à réussir en fait, scolairement parlant, parce que rester à une table à pas parler ou pas agir, c'était pas du tout dans mon ADN. Donc je dirais que j'ai commencé, et mon père l'a remarqué au collège, et c'est pour ça que je suis parti en filière technique, où j'ai fait un bac STI génie mécanique, parce que là j'étais dans un environnement où je pouvais faire des choses, parce que j'avais besoin de
créer. Il y avait plus
créer.
De concret.
Voilà, c'est ça. En fait, j'avais vraiment besoin de créer. Donc là, j'ai fait un bac STI génie mécanique.
Et t'as besoin d'avoir un diagnostic. Je trouve qu'il y a sûrement plein de personnes. Enfin, on en parle de plus en plus. Et c'est bien. Mais c'est dur, en fait, je pense, de se dire, est-ce que je fais partie... Enfin, dans quelle mesure j'ai cette... Alors, je peux pas dire pathologie, mais cette particularité qui peut être une vraie force, tu vois. Et
sûr.
Comment tu fais pour le diagnostiquer, enfin, si t'as pas quelqu'un pour te le dire,
c'est clair.
Tu peux te dire, est-ce que je suis pas normal par rapport aux autres, etc. Alors que tu peux carrément en faire une vraie force, quoi.
Bah, c'est sûr que le système scolaire, en plus, est moins adapté pour des personnalités comme ça. Et c'est pour ça, en fait, quand j'étais jeune, d'ailleurs, je voulais faire cuisine, quand j'étais jeune. Après, mes parents étaient pas trop chauds parce que, au niveau des contraintes de vie, ils trouvaient que c'était difficile. Voilà, donc... ils m'ont plutôt encouragé. Mon frère a fait un métier manuel pour le coup, parce que lui, il est métallier. Du coup, il a son entreprise maintenant depuis 20 ans. Parce que je pense qu'il avait aussi un peu ces mêmes troubles, mais on était un peu des gens qui aimaient faire les choses. Et ils m'ont plutôt encouragé à quand même persister. Donc, j'ai réussi à avoir mon bac. Et le côté très social que j'avais, parce que aussi, j'étais animateur aussi en colo. Donc voilà, donc bon.
T'as eu ton BAFA.
J'ai eu mon BAFA, j'ai été sous-directeur, j'ai pu aller partout, j'ai travaillé en Bulgarie, j'ai travaillé dans le sud, à la montagne, etc. Donc voilà, je dirais qu'il fallait que j'arrive à mêler le côté manuel, donc partie mécanique, plus le côté social. Finalement, ça m'a orienté vers la filière commerciale. Donc là, j'ai fait un BTS technico-commercial en industrie. Et ensuite, j'ai fait une licence commerce inter-entreprise. Donc pareil, c'est du commerce pour l'industrie. Et là, c'est là où j'ai commencé mon parcours en alternance. Et là, j'ai commencé à nouer avec le milieu du food. Parce que du coup, je travaillais pour une boîte qui fabriquait des capsules à vis en aluminium. Pour les bouteilles, les vins spiritueux, etc. Après, j'ai continué dans le commerce, mais je suis passé en achat. Où j'ai fait un master achat logistique en alternance. Dans une filiale de GDF qui s'appelle la Compagnie Nationale du Rhône, qui a la maintenance de toutes les centrales hydrauliques le long du Rhône. Et là, c'était vraiment achat mécanique, maintenance, etc. Et d'ailleurs, je repense à ça parce que à l'époque, en termes d'hyperactivité, je me souviendrai parce que du coup, ma tutrice à l'époque, je m'étais indigné parce que j'étais allé voir, je lui dis je comprends pas. Moi, j'ai 16 dossiers à gérer en même temps, alors que tous mes collègues en CDI depuis 20 ans, ils en ont en moyenne 8. Du coup, j'ai dit pourquoi cet écart ? Et en fait, elle avait compris. Elle a dit toi, t'as besoin d'être chargé. Si t'es pas chargé et que tu t'ennuies, on te perd, tu perds ton attention et t'es plus dedans. Donc, faut que tu sois ultra chargé.
Tu savais déjà que t'avais ces troubles ou pas ?
Ouais, alors en fait, je m'en rendais compte, mais ce qu'il y a, c'est que quand t'as beaucoup d'énergie et tu sais pas trop comment. Tu te comprends pas encore parce que j'avais un peu plus de la vingtaine, mais surtout, tu captes pas tout. Tu te connais pas encore assez. Et finalement, c'est là où tu te rends compte que les autres commencent à comprendre. Et en plus, j'avais fait des tests de personnalité, etc. Donc, il y avait des choses qui étaient un peu ressorties. Effectivement, le côté bon vivant, commerce, l'entrepreneuriat déjà était ressorti à l'époque. Même si finalement, pendant des années, je m'étais refusé cette voie-là parce que légitimité, parce que tout ça, c'était venu plutôt sur le... c'est venu plutôt sur le tard au final. Et après, recherche d'emploi. Recherche d'emploi, et il y a mon meilleur ami Jean qui travaillait aux États-Unis pendant un an et demi, qui est revenu s'installer avec Annabelle, qui est ma meilleure amie aussi à Lyon, et il a été embauché chez Michel Augustin. Okay. Voilà, ça c'était en 2013-2014.
Le plein essor de Michel Augustin où il commençait tout juste
Non, parce que ça avait déjà quand même quelques années. Disons que c'était là où il y avait vraiment un coup de boost, où les gammes, les équipes commençaient à s'étoffer. Moi, quand je suis arrivé, c'était une création de poste. Donc voilà, il y a la bananeraie lyonnaise qui venait de s'installer. Il y avait du coup un responsable de com, un directeur régional, et ils embauchaient deux commerciaux. Donc Jean avait pris un poste là-bas. Et il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresserait? Alors j'ai un peu creusé, bon, l'univers était sympa. Il me dit, ouais, c'est une marque qui cartonne bien, etc. Je me suis dit, why not? Et j'ai passé différents entretiens et j'ai été embauché en 2014.
Et c'était quoi les entretiens à l'époque?
Alors ça, c'est vrai que c'est un grand moment. C'est un grand moment parce que je m'en rappelle bien. Je m'en rappelle bien parce que... Donc moi, je prépare toujours bien mes rendez-vous en général. D'ailleurs, c'est ce conseil que quand il y a des jeunes qui me demandent, je leur dis, si vous avez un entretien, préparez-le à max.
80% de la préparation fait 100% de la réussite.
C'est clair. C'est évident. Et je me rappelle, j'avais un entretien avec Sandrine et elle m'avait dit « Où est-ce que tu fais tes courses ?» Je lui dis « Bah, je fais mes courses à Auchan d'Ardilly. Voilà. » Elle me dit « Qu'est-ce qu'on a là-bas? À quel prix? Et où c'est ?» Et j'étais allé 3 jours avant à Auchan d'Ardilly, justement. Et j'avais fait les courses et j'avais trouvé la boîte Michel Augustin de cookies par deux qui vendait au rayon frais. Et je lui dis « Bah, moi, j'adore les cookies, alors je les ai achetés. » Et qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je lui dis super bon, j'ai utilisé le guide pratique, j'ai mis 15 secondes au micro-ondes, etc. Super bon. Alors je dis pas que c'est ça qui a fait la différence, mais je dirais que c'est mon entretien avec Sandrine, ça a joué pas mal. Et après le dernier entretien que j'ai eu au téléphone avec Amaury, où on avait beaucoup discuté d'entrepreneuriat, justement. Parce qu'il disait, nous on cherche des entrepreneurs, des intrapreneurs, est-ce que tu peux me parler de ça? Et j'ai parlé de mon frère qui était entrepreneur. Je lui ai dit, bah voilà, je peux vous citer en exemple mon frère qui a monté son entreprise. J'avais aidé autant que possible à l'époque. Et je lui disais que ça faisait partie vraiment de l'ADN de la maison, quoi.
Et là, à ce moment-là, donc t'es recruté pour plutôt la partie business development, parce que vous êtes deux, commercial terrain.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Moi, j'avais en gros de tout l'est de Lyon, en gros de Lyon jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était magasin direct essentiellement. Après, les centraliser aussi, mais je veux dire, négo, magasin direct, ouverture de points de vente, produits, prix, implantation.
Et alors, c'est quoi d'être commercial terrain pour une marque, alors une pépite en l'occurrence, mm-hmm. parce qu'on se parle quand même de Michel Augustin, justement, la marque est, j'imagine, à l'époque, encore assez peu implantée.
Ah oui, en
Vous
région.
Êtes que deux.
Ouais, en région, on était assez peu.
J'imagine que tu te prends aussi des portes, mais ça fait partie de la résilience et de la, mm-hmm. de la partie un peu combativité aussi du commerce. Comment se passent tes premiers pas sur le terrain?
Alors, c'est sûr que Michel et Augustin étaient assez connus à Paris. Et c'est vrai que le peu d'image qu'il y avait, c'était une image assez parisienne. Et finalement, les clients, il y avait un côté un peu clivant, bobo parisien. Et en fait, c'est sûr que le plus difficile, de toute façon, c'est le démarrage. Et en fait, c'est tes premiers clients. Et en fait, j'ai des super souvenirs de carrière, notamment Charles au Super U PRE, par exemple. Et j'étais passé essayer de rencontrer quelqu'un. Et puis, il passait par là et il a entendu Michel Augustin. Il m'a dit « Ouais, ça m'intéresse ». Et c'était un gros Super U. Et en fait, on a démarré avec ce point de vente et on a eu des bons historiques. Et en fait, les autres ont un peu suivi. Parce qu'en fait, c'est comme dans tout. Il y a toujours des gens qui sont un peu précurseurs et qui deviennent des références. Et après, les autres sont plutôt suiveurs. Et quand vous arrivez à avoir un bon dossier dans un magasin, vous avez plus facilement à le revendre au reste. Et après, en jouant le maillage, etc. Voilà, donc je peux donner un exemple qui a permis d'avancer. Ou je peux donner le Leclerc Civrieux. Enfin, voilà, des magasins comme ça du coin... qui ont été...
T'étais sur Lyon, du coup, t'étais sur...
Ouais, sur Lyon, ouais.
Okay.
Après, on était aussi intramuros, mais j'allais jusqu'à Leclerc Clermont-Ferrand, par exemple, qui a aussi un très beau point de vente, et qui viennent des vraies références, et c'est assez challengeant, parce que ce qu'on arrive avec une gamme de produits, on doit le vendre, donc voilà, je dirais au début, pas mal de portes, jusqu'à qu'on ouvre les bonnes portes, voilà, en fait. Okay. Mais pour ça, il faut aller... faut multiplier les rencontres pour qu'un jour il y ait une porte qui s'ouvre.
Et tu as fait quand même chez Michel Augustin 7 ans, 8 ans
Ouais, c'est ça, un peu plus, entre 7 ans et 8 ans. Ouais. Je suis assez, c'est vrai que j'ai une grosse longévité chez Michel
Augustin.
Mais
c'est bien. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as dû voir aussi l'entreprise énormément évoluer.
Oui.
Parce que souvent, enfin, il y a eu. Alors, je ne sais pas si tu as connu d'ailleurs le changement de direction, le rachat. Non.
Alors si, parce que en fait, alors il y a le fonds. Quand je suis arrivé, c'était plus ou moins au moment où le fonds d'investissement était rentré chez Michel Augustin. Donc là, c'est là où il y a eu de forts recrutements. C'est là où il y a la partie États-Unis qui s'est développée. Donc c'est à ce moment-là où s'est passé beaucoup de choses. Après, en fait, la société a beaucoup évolué. J'ai par chance, j'ai pu évoluer avec elle. Et en fait, je trouve que les fondamentaux sont quand même restés pendant très longtemps. Ouais, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je suis parti, mais les fondamentaux sont restés assez longtemps dans la société. Et oui, en 7 ans, et après, moi, j'ai pu faire plein de choses qui m'ont permis de, malgré ma nature, c'est pour ça que je me dis, finalement, je suis resté quand même plus de 7 ans dans une maison. Qu'est-ce qui a fait que je suis resté ?
Mais c'est sûr.
Alors déjà, j'ai passé mon CAP pâtissier.
Donc ça, c'est trop chouette. Ah, ouais, parce que c'est ce que tu... Enfin, à la base, des bases, tu voulais être cuisinier, donc oui, ça fait un lien, c'est incroyable.
Donc ça, je l'ai passé, parce qu'Augustin, je le revois encore, elle était venue sur Lyon, elle dit, bon, on fait le CAP à Paris, est-ce que sur Lyon, ça te dirait ? J'ai dit, moi, je signe tout de suite. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, Jean aussi, il fait. Alors qu'il ne savait pas à l'époque. J'ai dit, Jean, au fait, tu passes ton CAP pâtissier.
Ok.
Et il a galéré, mais il l'a eu.
Génial.
On l'a passé tous nos ponts de mer. Je le forçais à venir avec moi à la bananerie pour réviser. Et j'ai même failli, d'ailleurs, passer le CAP chocolatier. Parce que j'ai demandé tout de suite derrière. J'ai dit, moi, si je peux faire chocolatier, banco. Et en fait, j'avais le chef, donc qui était maître chocolatier... chez Bernachon, Michael Bernard, et il était chocolatier aussi. Donc, mais par contre, j'avais pas la structure, le lieu, parce qu'en fait, il faut pas mal de matériel, et j'ai pas réussi à trouver. Donc, malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais bon, j'ai encore une longue carrière. Donc
non, mais c'est chouette. Ouais. Et du coup, donc, t'es rentré en tant que commercial, chef de secteur, chef de marché, ça dépend des boîtes. Mm-hmm. Et après, tu dis 7 ans, donc du coup, t'as évolué dans
quel type j'ai évolué sur de la partie compte clé, centrale régionale, un peu de Auchan, Leclerc, peu de Système U. J'ai là-dessus, après partie communication aussi, parce que du coup, vu qu'on avait la bananerie, il y avait beaucoup d'événements, les portes ouvertes.
Et puis elle était à la Croix-Rousse, la bananerie, là.
Elle
si
était à la Croix-Rousse,
ouais.
On a eu 2 endroits. On a été rue Belfort et rue de Nuit, avec un déménagement. Donc on a des super bureaux. Donc il y a toute la partie communication, management des stagiaires. J'ai quand même, en 7 ans, j'ai pas mal évolué, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, après la partie négo centrale aussi, c'était vachement intéressant. Ça a permis de monter d'un cran. Après, c'est sûr, j'étais limité. Et voulant rester à Lyon, j'avais une limite.
En
termes de perspective, il aurait fallu que je monte à Paris.
Pourquoi tu voulais pas aller à Paris si c'est pas indiscret ?
Parce que je suis quand même assez attaché. Je suis assez attaché à ma famille, à mes proches, et vraiment mes racines sont ici. Je me voyais pas déménager. J'aurais pu changer de pays, mais pas aller à Paris. Enfin, en tout cas, ce stade-là. Puis surtout, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais alimenté, etc. J'avais les centrales régionales. J'avais quand même une partie de négo. Je participais au maximum de ce que je pouvais faire. Donc, j'ai pas vu la limite vraiment. Voilà.
Et c'est ce qui t'a permis aussi de développer tes compétences pour plus tard l'entrepreneuriat.
Mmh.
Et tu le disais au début de l'interview, quand tu as été chez Michel Augustin, ils t'ont aussi recruté parce que tu avais cet aspect un peu entrepreneur.
Tout à fait.
Et du coup, tu as fini par monter ta boîte.
Oui.
Et à quel moment, justement, tu t'es dit, c'est le bon moment ? Parce que souvent, on a beaucoup de freins, de peurs, de questions de légitimité, un peu, est-ce que je suis au bon endroit au bon moment ? Toi, comment ça s'est passé ?
Alors, ça s'est passé... il y a une partie très positive à tout ça, en fait, qui est souvent de moments difficiles de vie. Ce qui s'est passé, c'est que... à l'époque, j'étais en couple, j'ai acheté mon appartement à Croix-Rousse, et du coup, je pars très loin parce que c'est l'histoire.
Non, mais...
Donc, j'achète mon appartement, que je retape de A à Z, parce qu'il y avait tout à faire... On sous-estime toujours un peu la tâche. Donc, je me retrouve en difficulté, séparation, mon père un peu malade, plus d'argent, etc. Et en fait, à côté de ça, je suis plutôt quelqu'un de bienveillant, accueillant, aidant. Et j'avais quand même rencontré pas mal de monde. J'aidais souvent des gens, des petits entrepreneurs à mon niveau, mais sur le domaine que je connaissais. Et tellement que Jean me dit pourquoi tu montrerais pas une structure pour pouvoir donner des formations. Et en fait, donc connaissant tous ces moments un peu difficiles, je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'avoir un revenu complémentaire et d'avoir peut-être un cadre un peu plus formel qui me permette de justement bien travailler. Et c'est de là où j'ai commencé à donner des formations. Donc voilà, ma première expérience d'entrepreneur, j'ai monté ma micro-entreprise.
À côté justement de ton poste de...
Voilà, tout à fait. Okay. À côté de mon poste chez Michel Augustin. Alors après, c'était sur mes jours de congé.
Oui,
j'en
bien sûr.
Pas, voilà.
Bien sûr. Mais c'est assez novateur, je trouve, pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, oui. On voit de plus en plus de profils qui sont un peu multicasquettes et qui font justement cette partie entrepreneuriale à côté. En l'occurrence, par exemple, moi, c'est mon cas, mais... Tu sens que c'est encore pas 100% dans la culture française. Alors je sais pas exactement comment ça se passe dans d'autres pays, mais en tout cas que c'est pas encore rentré dans les mœurs.
Ouais,
et comment tu fais pour aborder ce changement et même quel est le regard de Michel Augustin par rapport à ça, quoi?
Ben en fait, je pense que c'est pas rentré dans les mœurs parce que je peux comprendre à la place d'un employeur où c'est de se dire voilà quelqu'un qui fait quelque chose à côté, est-ce qu'il est pas un demi-pied dehors? Et ça, je peux comprendre que ça peut. Et après, de se dire. Effectivement, moi, j'aurais quelqu'un qui me poserait la question. Évidemment, j'encouragerais à le faire. Après, je trouve que c'est pas évident de l'amener auprès de son employeur. C'est vraiment pas évident parce que. Enfin, ça devrait pas, hein, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais après, effectivement, le statut de micro-entreprise, c'est un super moyen, je pense, pour démarrer. Une petite activité à côté. Et effectivement, je suis d'accord, c'est pas rentré dans les mœurs, mais...
Et de voir si ça nous
devrait.
Convient aussi.
Oui,
parce que, carrément. Effectivement, c'est sans risque, entre guillemets.
C'est super facile.
Et du coup...
C'est super facile et je trouve qu'on communique pas assez dessus pour pouvoir le faire. Mais enfin, après, on parle, là, pour le coup, on parle de services parce que c'était des formations.
Oui, bien sûr.
On peut le faire sur des produits.
Tout
je sais
fait.
Pas, par exemple, vous fabriquez quelque chose que vous aimez bien à la maison. Je sais pas, par exemple, vous faites des cookies le dimanche. Vous avez envie de les vendre sur le marché le dimanche matin, bah rien ne vous empêche. Et créer une micro-entreprise, ça, vous pouvez le faire.
Surtout quand il y a la fibre déjà de base un peu commerciale et business.
C'est ça.
Pour le coup, c'est hyper intéressant.
Ouais,
quoi.
C'est un super outil.
Et du coup, donc, tu commences comme ça, en
Exactement.
Tout cas, à avoir ton activité. Ça dure combien de temps?
Là, ça a commencé, je dirais, en 2019-2020. Enfin, je l'ai toujours, ma micro-entreprise. Hein. Je ne l'arrête pas. Alors oui, effectivement... Par la suite, ça a été compliqué de mêler tout de front. Mais je veux dire, c'était la première. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est possible. Voilà. Oui, c'est possible. Oui, il y a des alternatives. Et après aussi de se dire, on a de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vous demandent et vous proposez un service que vous avez vendu vous-même de vos propres mains. Et les gens sont contents du service. Donc, je dirais que... Effectivement, c'est un gros pas qui est fait. Quand on en est arrivé là, je pense que c'est vraiment un gros pas qui est fait. Et après, on peut très bien garder les deux statuts, un statut de salarié et garder sa micro-entreprise à côté. Et d'ailleurs, j'inviterai n'importe quel employeur à évoquer ça auprès de ses salariés. Parce qu'aujourd'hui, je connais des salariés qui pourraient, par exemple, donner des cours aussi. Mais bon, ça, c'est à côté de l'activité. Il y en a qui le font sans le dire. Il y a plein de cas de figure.
C'est
sûr. Je trouve que c'est dommage.
En fait, je pense qu'il y a une question aussi de transparence que tu donnes et d'avoir vraiment confiance en tes employés.
Ah, c'est clair.
Effectivement, quand la confiance est rompue, elle est rompue. Mais en l'occurrence, bien se dire les choses parce que sinon, ça peut mener à des situations un peu compliquées
Après, je peux
avec
comprendre
les collaborateurs.
Si on sait que c'est difficile avec son employeur de pouvoir le faire, on se dit on prend un jour de congé et puis on le fait là-dessus. Et au final, après, il ne le saura pas. Mais je trouve que c'est dommage.
Oui, je suis complètement alignée. Et du coup, donc à quel moment tu quittes en fait Michel Augustin pour te mettre pleinement
de cette première opportunité, en fait, ça a déclenché le reste, puisqu'en fait, j'ai donné une formation pour une entreprise qui s'appelle les Toques Blanches du Monde. Et de là, j'ai rencontré Patrick, qui est aujourd'hui mon principal associé actionnaire. Et en fait, parce que c'était le président de cette entreprise. Et en fait, avant tout, c'était des histoires d'hommes. Et effectivement, on a bu un café après la formation et on s'est bien entendu. Donc, j'ai tendance à dire, on est un peu les mêmes avec 20 ans et 20 kilos de plus. Donc voilà, je dirais, c'est cette rencontre-là en fait, qui a permis la suite. Et en échangeant avec Patrick, on a parlé de fibre entrepreneuriale, de son parcours, parce que Patrick avait à l'époque 55 ans, président de plusieurs entreprises, anciennement directeur général de Weiss, grosse carrière, entrepreneur de longue date avec plusieurs business. Donc je dirais qu'il a apporté si mon champ des possibles avait été déjà bien ouvert avec mon premier pas, là, il l'était plus parce que j'avais un exemple. Au-delà d'Augustin, Michel et des gens que j'avais vus, j'avais un autre exemple d'entrepreneur. Et à l'époque, m'a questionné savoir si je voulais partir à 100% dans l'entrepreneuriat. Et de là, on a réfléchi ensemble sur des idées de business et notamment de produits au CBD. Alors moi, j'avais connu le CBD parce que mon frère en avait acheté qui venait de Suisse. Donc je parle de ça, c'était un peu même 2018. Donc j'avais trouvé un attrait pour la molécule et aux États-Unis, enfin je voyais que c'était quelque chose qui se développait pas mal.
Et c'était pas développé en France
pas
encore.
Du tout.
Pas du tout, ouais. Parce pas que ça tout. Fait vraiment très ouais. peu de temps que oui. c'est vraiment démocratisé.
Enfin pas du tout. Ça commençait à venir. Après il y avait eu le cas Canava. Enfin il y avait deux trois choses qui se passaient, mais ça restait encore très niché. Voilà. La France commençait à comprendre la différence entre THC et CBD. Quand aux États-Unis ils avaient déjà ouvert les vannes. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là et avec Patrick, j'ai travaillé donc en parallèle de mon taf chez Michel Augustin sur la possibilité de sortir sur le marché un produit alimentaire, parce que c'est la chose qui me va bien, au CBD. Donc j'ai réfléchi à plein de types de produits.
Et tu t'y es pris infusion. Comment dans le process? Parce que tu avais ton taf à côté, donc j'imagine qu'il fallait quand même être assez... Enfin, structuré, j'en sais rien en fait. C'est l'image que je m'en fais, mais peut-être pas du tout. Comment tu t'es... Alors, le CBD, t'avais déjà l'idée, t'avais le partenaire.
Voilà.
Et comment tu t'es...
Alors, en fait, la principale difficulté à l'époque, c'était la difficulté technique. C'est-à-dire, le CBD, c'est une plante. Il faut... je peux faire un produit alimentaire à ça? Je vais pas prendre la fleur et la mettre dans un paquet
oui,
et vendre
oui,
ça comme
oui,
ça.
Bien sûr, bien sûr.
Donc déjà, la première chose, c'était le défi technique. C'était comment faire. Donc de là, je suis allé en Suisse, parce qu'en Suisse, ils étaient avant-gardistes. J'ai fait des déplacements en Suisse, je prenais des jours. Le week-end, je travaillais, je passais sur Internet, je regardais partout, essayer de comprendre.
Et tu étais vraiment animé, quoi.
Ouais, je cherchais une solution. Je me dis, voilà. Et à un moment donné, j'avais trouvé le principe de la boisson. Parce qu'en fait, je me suis dit, l'univers de la boisson, c'est un univers, en fait, c'est un univers très facile. C'est un univers qui est ultra inspirant parce qu'au-delà de ça, j'avais des. Mais on y reviendra après sur vraiment l'ADN de marque. J'avais vraiment des envies de marque à valeur avec quelque chose en plus. Et je voulais amener plus qu'un produit au CBD parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, le marché du CBD allait arriver. Donc, ce que je voulais, c'était avoir une marque qui aille au-delà du CBD, qui soit vraiment, qui ait vraiment des fortes valeurs et qui apporte autre chose. Parce que je savais que ça n'allait pas être différenciant d'être au CBD. Donc, voilà, j'avais cette envie-là, c'est de me dire d'avoir une marque qui soit unique sur un marché et après trouver la manière d'utiliser la molécule. Et de là, donc, je suis parti sur les boissons. J'ai trouvé un extrait de chanvre qui soit hydrosoluble dans une boisson et qui soit techniquement à peu près viable. Et après, j'ai travaillé à la fois... pour un niveau timing, ça m'emmène à début 2020, en gros. Voilà, donc début 2020, et on va dire juin, juillet 2020. Là, vraiment, j'ai travaillé tout l'été sur le sujet.
Donc, arrive septembre. Après le confinement.
Il y a eu des confinements,
oui,
ça a arrêté, revenu, voilà,
ouais,
c'est un peu revenu.
Mais après le premier confinement,
voilà,
en tout cas, où tu t'es mis à fond.
C'était un peu là-dedans, quoi. Donc, c'est arrivé peu, en même temps où je finissais mes travaux chez moi. Donc, j'avais tout cumulé. C'était impeccable.
Des fois, le timing, c'est pas...
Et si bien qu'en juillet, en juillet 2020, avec Patrick, donc on a bien travaillé la chose. Et là, c'était quasiment sûr que le truc allait partir. Donc là, on s'est attelé à monter le projet... le business plan et à trouver les partenaires qui puissent mettre dans le projet pour créer la boîte avant la fin de l'année. Et en octobre...
Donc là, tu quittes Michel et Augustin.
Début, en fait, 3 mois de préavis.
Ouais,
donc l'idée,
sûr.
C'était que je commence au 1er janvier 2021. Donc j'ai annoncé mon départ le 1er octobre 2020 avec 3 mois de préavis. Et à l'époque, j'ai expliqué ma situation, voilà, et qui a été ultra bien accueillie parce que l'ADN de, une des particularités de Michel Augustin, c'est l'ADN de l'entrepreneuriat. Donc, je repense à Sébastien, à Guillaume, L'ancien DG de Michel Augustin, Guillaume, le directeur commercial, enfin, le très bon accueil que j'ai eu en disant, bon, les gars, je pars, mais pas pour prendre un poste, un énième poste, mais plutôt pour créer une entreprise.
Une entreprise, voilà. Ouais, tout à fait.
Donc, et à l'époque, il m'avait beaucoup questionné sur quel était le sujet. Et en fait, c'était quand même assez avant-gardiste. Et le milieu de l'agroalimentaire était un petit milieu. Donc, j'ai dit, les gars, je peux pas vous dire parce que. Parce que j'essaie d'être un peu en avance par rapport au marché et je peux pas,
envoyer
toute la profession. Non.
Ah, ok.
Non, personne n'avait deviné à l'époque, en tout cas.
Ouais.
Après, j'avais orienté, je disais que c'était toujours dans l'agro, etc. C'est dans mon milieu, mais voilà, j'avais dit, voilà, par souci de confidentialité, je peux pas trop vous le dire.
Et t'avais pas des craintes, justement, parce que souvent, dans tout entrepreneur, je pense que tu as une peur parfois de te lancer. Mmh. Là, en l'occurrence, tu étais très bien accompagné. Donc, et comme tu le disais précédemment, c'est une histoire d'homme. Donc, il y a eu un match, il y a eu une idée.
C'est ça.
Et tu savais qu'il y avait un potentiel sur le marché. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait que vraiment tes craintes, parce qu'il y a aussi l'aspect financier qui peut être parfois compliqué, où tu te dis, bah, foutu pour foutu, j'y vais quand même, quoi.
En fait, ça vient assez naturellement. Effectivement, on se pose souvent beaucoup de questions, mais en fait, naturellement, le chemin vous guide. Et en fait, faut juste. Souvent, il y en a qui disent, il y a une expression qui dit on est appelé à diriger. Je dis pas que j'ai eu un appel. Parce que souvent, quand on pose la question, je me suis pas levé la nuit en me disant ça y est, c'est parti.
Ça aurait été drôle.
Ça aurait été drôle, mais c'est plus en fait par rapport à l'histoire. Il y a en fait la cohérence, le chemin fait que en fait.
Tu te voyais pas faire autrement en fait.
Je me voyais pas faire autrement parce qu'il y avait des choses aussi que j'avais compris même chez Michel Augustin. Alors je reviens un petit peu en arrière sur la question que tu me disais pourquoi à Paris et pourquoi je suis pas passé à Paris. En fait, j'ai remarqué que dans ma vie, j'ai toujours été très inspiré par les gens qui étaient porteurs de projets, en fait. Alors, j'ai rien contre tous mes collègues que j'avais chez Michel Augustin, mais pour moi, j'ai envie de dire, il y avait, entre moi et Michel Augustin, pour moi, il n'y avait rien, en fait. J'ai jamais voulu être un intermédiaire au milieu de tout ça. Ça veut dire que moi, j'écoutais Michel Augustin, c'était eux qui m'inspiraient, voilà. Et en fait, et ça a toujours été comme ça, mais j'aurais pu aller dans un bar, voilà. Et en fait, on dit souvent qu'aussi, on ressemble aux gens qu'on admire. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, c'est un exemple que j'ai envie de suivre. Et c'est pour ça que quand les planètes s'alignent finalement et que le chemin vous mène là, bah, finalement, ça devient cohérent. Ouais. Parce que vous dites que j'ai cette capacité parce que je me suis nourri toutes ces années de ces gens-là. Et au final, vous dites que tu te dis que tu as la capacité d'y être.
Ouais, je comprends. Donc là, on est en décembre 2020.
Décembre 2020, 1er janvier, j'attaque NACA pleinement. Donc la boîte a été créée en octobre.
D'accord.
Deux, trois semaines après que j'ai posé ma démission, avec une capitalisation. On a fait tout de suite de la love money, mais on avait des sous pour se développer.
Donc vous étiez à 50-50 au capital?
Moi j'avais pas, on avait un capital de 600 000 au départ. Moi j'ai mis toutes mes économies, mais elles n'étaient pas de ce niveau là alors c'est pareil aussi, je m'étais dit je suis pas majoritaire sur une entreprise, est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais ou je le fais pas. C'est pour ça, et là du coup je vais te citer Augustin qui parlait sur un podcast et qui disait qu'aujourd'hui il y a quatre planètes alignées dans un business, et réussir le côté communication de son entreprise, le côté commercial, donc quel potentiel de chiffre d'affaires, les données économiques, est-ce que les charges que j'ai versus ce chiffre d'affaires, est-ce que ça c'est cohérent, et le personnel. Donc savoir est-ce que dans mon entreprise, j'arriverai, je ne sais pas si un jour je la revends, à toucher un ticket ou non. Et en fait, aussi en discutant avec Augustin, aligner ces quatre planètes, c'est compliqué. Surtout que moi j'avais acheté mon appartement, pour un prorata, j'ai mis toutes les économies que j'avais, même si ce n'était pas important, j'ai mis toutes les économies. Et aussi, Michel Augustin m'ont aidé aussi, la boîte, Ils m'ont donné quelques milliers d'euros pour me permettre de me lancer.
C'est super.
Et ça, j'en remercie vraiment grandement. Donc tout ça pour se dire que je n'avais pas les capacités financières, parce qu'en fait le métier, enfin l'ambition qu'on avait nécessitait quand même d'avoir un peu de capital. Donc voilà, j'ai rogné sur cette partie là mais sans regret. Okay. Voilà, sans regret, parce que parce qu'une carrière c'est long, et que des projets, il y a celui-ci, il y en aura peut-être d'autres. Donc voilà,
c'est clair. Tu commences Naka, alors ouais. Parle-nous de la marque, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas.
Bah alors du coup, Naka, c'est une marque de boissons au CBD. Mmh. Donc le portefeuille aujourd'hui est de deux boissons. Quand j'ai commencé, il y avait une boisson. Et de boissons au CBD, donc valeur forte, fabrication en France, sucre de betterave bio français, arôme bio naturel français aussi. Seul, malheureusement, le CBD ne vient pas de France, parce qu'en fait, la filière CBD est une filière très compliquée, parce qu'en France, il est compliqué de faire pousser le CBD, de l'extraire, etc. Donc, les seuls produits que j'ai trouvés sur le marché qui étaient vraiment sûrs venaient des États-Unis. Okay. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont les champs, l'extraction, etc. Ils ont une maîtrise totale de la fabrication. Et en plus de ça, c'est des produits qui sont commercés là-bas, au Canada, en Angleterre, etc. Donc, il y avait quand même des références. Donc, voilà, j'ai fait ce parti pris-là. Et en plus, il y a des dépôts de dossiers Novel Food, mais on y reviendra. Voilà, donc, voilà, donc ça, je dirais, c'est les valeurs, c'est le socle de boîte française. Et après, le premier côté important, c'est le côté artistique. Ce que je voulais, c'était en fait utiliser un objet du quotidien qui est une canette, mais le sublimer, que ça soit vraiment une œuvre d'art. Donc voilà, quand je disais tout à l'heure, c'était aller au-delà de la partie produit. Voilà, et après, j'ai pas révolutionné la chose. Hein. Je veux dire, Red Bull serait pas Red Bull s'ils avaient pas les sports extrêmes. Coca-Cola, ils ont le Père Noël. Voilà, après, en toute modestie, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je voulais un vrai ADN fort et de se dire que voilà, Naka, c'était une marque d'art. Et que voilà, aujourd'hui, j'avais pris Jason qui a designé les deux premiers parfums. Et ce que je veux, c'est pouvoir prendre d'autres artistes pour d'autres signatures, sur d'autres produits, etc., et que ça soit vraiment, fasse partie de l'ADN. Et là-dessus, après, on peut imaginer beaucoup de choses, de l'événementiel, beaucoup, je sais pas, dessine-moi une méduse, des concours, des événements, enfin vraiment. Donc voilà, c'était vraiment l'ambition, elle était là-dessus, et du coup, c'était sortir de la partie produit pour amener autre chose, et je sais pas, être en partenariat avec des classes d'art, des artistes, etc., pour aider aussi, aider une profession. Enfin voilà, l'art, c'est, je trouve que c'est... Alors moi, je suis musicien, et pour le coup, mon frère est fan de street art. Et moi, je trouve que c'est...
Tu fais quoi comme instrument, enfin...
Alors, j'ai fait de la batterie, de la trompette, du piano, du saxophone. Enfin,
oui, j'allais dire, toujours... est-ce que tu fais un? Mais non, en fait, je savais qu'il y en avait
voilà,
plusieurs.
Voilà, donc on revient encore sur le même...
c'est génial. Coup,
voilà, donc j'ai fait pas mal d'instruments. Et mon frère a fait beaucoup de dessins et du graphe. Alors, c'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière. Parce que, en fait, pourquoi j'ai associé beaucoup le street art à Naka et au CBD? Et je vais faire un parallèle, parce qu'en fait, il était important pour moi à l'époque. C'est que, en fait, le street art... Il y a 20 ans, quand mon frère il en faisait, c'est-à-dire qu'il allait dans des hangars pour peindre. Et en fait, enfin, la police, tout ça, les traquaient les graffeurs, et ils étaient cloués au pilori, quoi. C'était pas de l'art, c'était du vandalisme, etc. Et aujourd'hui, si on prend Banksy, les mecs, ils découpent les murs quand le gars il fait une œuvre d'art, alors que c'est un street art, un street artiste. Donc un Banksy, il y a 20 ans, il était en prison, et aujourd'hui, ça vaut des millions. Donc, pour ça, pour dire qu'en fait, un art qui, à l'époque, n'était pas reconnu, aujourd'hui l'est. Et je fais le parallèle avec le CBD, parce que le CBD, pendant des décennies, ça a été associé, la plante de chanvre, du moins, a été associée au THC, avec tout ce qu'on connaît, etc. Et aujourd'hui, la plante de chanvre s'est démocratisée, l'alternative au CBD est arrivée, et je dirais quelque chose qui a été une plante qui a été controversée pendant des décennies, aujourd'hui arrive à avoir cette place. Donc je trouvais que le côté art et CBD, street art et CBD, je trouvais qu'il y avait vraiment un sens, et j'ai essayé de réunir les deux.
Et la cible du coup que tu... Enfin, j'ai deux questions. La cible que tu voulais toucher, c'était qui? T'imaginais qui comme type de consommateur?
Alors j'imaginais des consommateurs qui soient quand même un peu avant-gardistes, qui soient déjà sensibles à des valeurs de marque comme nous on avait, Donc le Made in France, etc., avec tout ce qui va avec, le circuit court, etc., qui soit aussi, qui cherche des produits alternatifs, en produits boissons fonctionnelles. Donc se dire, aujourd'hui, je peux diminuer ma consommation d'alcool, par exemple, ou de boissons énergisantes pour d'autres alternatives. Donc chercher à cibler ces personnes-là. Et après, des personnes qui pourraient être sensibles, je sais pas, à la dimension artistique, packaging, goût aussi, avec un goût unique. Parce que ça, c'est vrai que j'ai finalement, dans tout ça, j'ai pas parlé du goût du produit. Mais l'idée, c'était d'avoir vraiment une recette unique, pas faire une boisson au citron ou à la menthe qu'on a déjà goûté. Enfin, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Mais voilà, vraiment une touche. Alors, c'était un parti pris parce que notre premier parfum à la rose et le deuxième à la poire. Avec deux, trois petites notes. Le premier plutôt rose litchi et l'autre poire un peu anisée, qui sont quand même des parties pris. C'est pas c'est un peu clivant aussi. Mais c'est ce que je trouve, c'est ce qui crée le produit. C'est déjà aussi la prise de risque. J'ai envie de dire, j'avais déjà pris beaucoup de risques. J'étais à la fois sur une canette qui avait un design fou, du CBD et un goût qui était vraiment clivant. Donc c'est vrai que alors je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller jouer à la carte jusqu'au bout. Mais en même temps, ça permettait aussi pour des gens qui étaient fédérés autour de ce projet-là, de pas faire les choses à moitié, quoi.
Et pourquoi Naka, alors ?
Le mot Naka ?
Ouais.
Alors, Naka, c'est un mot japonais.
D'accord.
Moi, je suis très inspiré déjà par l'univers du Japon.
T'es déjà allé au Japon ?
Alors non, malheureusement, okay. J'y suis pas allé. Mais ça fait partie de mes rêves.
Ouais.
Bon, vu des circonstances, ça sera peut-être pas dans l'immédiat, mais ça fait partie de mes rêves. Donc déjà, c'est un mot qui signifie l'intérieur. Donc, c'est un côté très spirituel. Et à la fois aussi, c'est très court. Naka, ça se retient bien. Donc c'était pour... Et au bout d'un moment, il fallait trancher sur un nom.
Bien sûr. Non, mais c'est sûr, c'était très...
peut-être le moins évident. La méduse est venue plus facilement. Alors, la méduse, c'est pour le côté un peu électrisant, piquant. Enfin, voilà, c'est un animal qui est à la fois fascinant parce que c'est beau. Et à la fois, on n'a pas envie de le toucher. Donc, j'ai fait des parallèles avec le CBD. Voilà, il y a toute une démarche derrière.
Et l'accueil des distributeurs, alors, parce que toi qui as une ADN, entre autres, plutôt commerce, quand tu as commencé, quelle est la première enseigne ou autre, d'ailleurs, à qui tu as présenté le projet? Et quelle a été la première réaction?
Alors, c'était la grande épicerie de Paris.
Ouais.
Alors, pourquoi la grande épicerie? Parce que, malheureusement, je n'ai pas de grande épicerie à côté de chez moi. Et après, j'ai pas forcément les moyens, mais...
Il y a peut-être un concept, la grande épicerie Lyon, à créer. Hein.
J'y ai pensé, mais il faut un peu plus de moyens. Mais en tout cas, je trouve que c'est... en termes d'enseigne, je trouve que les valeurs de l'entreprise, l'univers, tout ça, je trouve que c'est vraiment la plus belle épicerie du monde, quoi. Donc c'est vrai, faire un lancement dans la grande épicerie de Paris, c'était vraiment la consécration. On n'avait pas le produit, qu'on avait déjà la grande épicerie et Monoprix. Et du coup, ils ont adhéré, tout ce que je viens de dire, le projet, l'équipe, ils ont vraiment
l'écran
adoré.
L'écran des petites marques, voilà. Comme dirait.
Exactement. Et ils ont adhéré à tout ça, donc le côté innovant du CBD, l'ADN de marque, etc. Ils ont plutôt accroché tout de suite. Donc, j'avais pas le produit, que j'avais déjà deux enseignes. Donc, avec le lancement en exclusivité à la grande épicerie, qui est arrivé du coup en octobre 2021, ce qui a fait quand même beaucoup de mois, on n'en a pas parlé, mais il a fait beaucoup de mois pour la partie R&D, donc à la fois packaging, goût, etc.
Donc vous étiez toujours deux et vous travaillez en collaboration.
Alors du coup, moi j'ai attaqué mon associé Patrick, pas de rôle opérationnel, hein, donc moi j'ai commencé tout seul dans une réserve. Dans une réserve d'une boîte à champagne, et après Lorraine m'a rejoint en février.
Okay.
Donc finalement 2 mois après que je sois à plein temps.
Donc Lorraine, directrice marketing
communication. Donc je dirais que son job a été de développer le packaging. Quand je lui ai dit Lorraine, on va mettre une œuvre d'art sur la canette, elle m'a dit je ne ferai jamais ça.
Tu parlais un peu en off tout à l'heure, et je trouve que c'est intéressant qu'on revienne sur ça. Le premier collaborateur avec qui tu travailles, c'est quand même hyper fondamental dans une boîte.
Ouais.
Comment ça s'est passé, votre rencontre? Quel était son parcours et les débuts, la collaboration à deux finalement? Ça se passe comment?
Alors, j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi parce que il me fallait du contradictoire, il me fallait de la compétence, il me fallait beaucoup de choses. Et c'est vrai que pendant des longs mois, bah, sur la partie opérationnelle, j'étais relativement seul. Donc j'ai cherché quelqu'un en marketing, produit, pour m'aider à vraiment tout ce que j'imaginais à le concrétiser. Et de là, bah, j'ai pris Mathieu qui s'est occupé de la partie recrutement. Et j'ai vu beaucoup de monde, plein de profils différents, étrangers qui arrivaient sur Lyon, etc. Si bien que j'avais une proposition d'embauche pour une personne. Et y a Anaïs qui me dit « Ouais, j'ai une fille qui vient de Paris, elle s'appelle Lorraine, elle a un profil distributeur. Il faut quand même que tu la rencontres. » Bon, je lui dis « Bon, bah, je suis pas à un entretien près, je vais la rencontrer. » Donc de là, Lorraine arrive en entretien. Du coup, je lui fais goûter des produits. Et je revois encore, donc, alors, elle, déjà spontanément, elle me demande, elle me dit bah, s'il existe des produits au CBD ou autre, je veux bien goûter. Je dis bon, bah, ok, j'ai quelques produits, on va goûter des échantillons, etc. Et là, elle me fait, bon, la boisson, elle me la boit cul sec, quoi. Je dis, je lui dis vous me perturbez, Lorraine. de là, elle part de l'entretien et je dirais que bah, dans la vie, on a plusieurs coups de foudre, mais là, j'avais vraiment un coup de foudre pour la personnalité très dynamique, très chaleureuse et ce côté bon vivant qui m'avait attiré. En fait, je me suis dit, bah, je suis c'est elle qu'il me faut, voilà. Resté 3 ans, donc, et ça a été vraiment, ça a été un bras droit. Enfin, elle a été beaucoup de choses, mais oui, ça a été vraiment instinctivement, c'était la personne qu'il me fallait, parce qu'il avait la capacité de me compléter aussi, qui avait un côté beaucoup plus analytique, cartésien, que moi qui suis un peu plus dans l'imaginaire, qui apportait voilà, une compétence sur un côté plus marketing, plus sur le côté très commercial. Et au final, le binôme a commencé en février 2021.
Et là, du coup, comment vous répartissez justement les fonctions ? Enfin, tu dis toi peut-être plus sur la partie commerce, elle plutôt sur la partie market. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Enfin, là, t'en parlais un peu, où tu lui dis, il faut créer un pack. Enfin, ouais. Quand tu pars de rien, quoi, c'est assez...
Disons qu'à cette époque-là, j'avais dit à Lorraine, ce que je veux, c'est... Alors déjà, il y a le côté packaging et recettes. Je lui avais dit, voilà, moi, je veux 2 choses. C'est que je veux une œuvre d'art sur la canette et je veux une recette qui soit unique. Donc de là, elle me dit, OK. Et après, il a fallu trouver l'artiste et après travailler le produit. Et en fait, les choses ont... Donc, Lorraine s'est vraiment occupée de la partie traitement de toute la partie graphique. Donc voilà, se dire, la première œuvre, elle est comme ça. Donc, Rose n'a qu'à Sunset... Donc, il faut prendre ça comme ADN et après décliner tous les supports, le site internet, le packaging ultra bien fait, l'étiquetage, donc toute la partie pack. Et à côté de ça, la partie recette. Et en fait, ce qui est particulier, nous, on a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que souvent, on part du produit et après, on fait le pack. Et ben nous, on est parti du pack pour faire le produit.
Ouais.
Et j'ai dit à Lorraine, le pack, il sera à ça. Maintenant, il faut qu'on trouve le produit qui va dedans, qui... Donc voilà, après il y a
après c'est raisonné par la contrainte, enfin en tout cas, mais c'est intéressant parce que du coup ça te permet de faire un produit qui est complètement dans l'ADN que tu imagines de la marque, quoi.
Mais c'est particulier quand même de se dire on part du design pour avoir le goût. Après
c'est pas le process créatif classique, non, mais ça
fait.
Marche
ouais. Et du coup Lorraine a travaillé tout le développement de la recette, donc imaginez la recette, on a eu plein de pistes différentes et après on a fait des panels etc jusqu'à arriver à une recette définitive en juin-juillet
2021. Ok.
Et après, en anecdote, des anecdotes depuis 3 ans et demi, j'en ai énormément. Mais je dirais une des vraies que je partage volontiers parce qu'elle était vraiment, c'était un coup dur, c'est que, en fait, dans la vie d'entrepreneur, surtout au démarrage, on dit toujours de bien s'entourer, c'est important. J'avais peut-être fait un peu trop confiance sur la partie laboratoire au démarrage et on m'avait dit l'usine, j'en ai une bien en Autriche, etc. Ça roule, tout, coût. J'avais dit je vais le faire en France. On m'a dit non, France trop compliqué, les volumes, le coût, ça fait pas. Et je m'étais peut-être pas assez, j'avais peut-être pas assez argumenté ma vraie volonté. Et en fait, du coup, on a pris un Autrichien qui nous a planté un mois avant la production. Donc ça devait être en juillet, nous dit, bah finalement, on fait pas. Ah, ça veut dire quoi, on fait pas? Bah non, on n'a pas les outils, etc. Donc je me retrouve à avoir, entre-temps, j'avais à côté un commercial alternant stagiaire. Donc moi, on était 6 en septembre, j'avais pas de produit. Donc en termes d'anecdote, c'était... Et j'avais déjà les référencements, il y avait tout sauf le produit. Donc voilà, je dirais en termes de douche froide, là, ça nous a pas mal impacté. Et là, je reparle encore des équipes et je reviens un peu
et
sur...
Et comment tu fais juste pour rebondir quand t'as...
Ah bah alors là, alors déjà, on encaisse. Et comme je disais toujours à Lorraine, quand je prends une salle nouvelle, je lui dis « Tu me laisses la nuit, je reviens en forme demain. » Donc là, j'ai mon petit coup de mou la journée. Et le lendemain, bon, je dis à Lorraine. Et c'est là où on voit le choix de ces équipes. C'est-à-dire que dans les bons moments, tout le monde est bien, etc. Et dans les moments difficiles. Et là, je revois Lorraine. Elle m'a dit « Bon, bah... c'est pas grave, on se mobilise. » Je lui dis, allez, vas-y, on cale le truc. Et de là, on a pris, on a ratissé toutes les usines qu'il y avait. Alors maintenant, on a dit, bon, laisse tomber l'étranger, on va en France, on va voir quand même en Espagne s'il y a des alternatives. Et là, on a appelé tout le monde, on a fait un tableau. Et tous les deux jours, on regardait où on en était, on appelait, on demandait. Alors, il y en a un qui nous dit, non, on ne fait pas. L'autre qui nous dit, les volumes sont machin. Tellement qu'on arrive à shortlister un fabricant dans le sud-ouest de la France qui nous dit « Ok, pour le faire ». Elle a en fait notre première production en octobre 2021. Donc voilà, on s'est retroussé les manches, on s'est battu et on s'est dit « On va sortir cette canette d'une usine et on a fait ça comme il faut puisque du coup, on a tout repris. Et en fait, voilà, tous les outils, en fait, au début, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a tous les outils en nous. C'est-à-dire qu'en fait, et je ne m'étais pas écouté à l'époque, je n'avais pas tapé du poing sur la table, mais quand on est acheteur, on nous apprend, voilà, on fait appel d'offres, on balaye le marché, on va visiter tout le monde et ainsi de suite. Et ça, je ne l'avais pas fait. C'est-à-dire que là, un mec qui m'avait dit, ouais, c'est bon, j'ai un type, ça marche, et j'ai dit, bon, ok. Alors que non. Et ce qui est pour ça qu'après, je me suis dit, jamais plus. Voilà,
c'est comme ça que tu apprends. Et je pense qu'il y a un point du coup qui est hyper intéressant, c'est le fait que quand tu es auto-entrepreneur, que tu montes ton business, tu as besoin du réseau, parce que tu en as parlé, tu as besoin d'avoir l'expérience des autres, mais ce qui est valable pour un n'est pas forcément valable pour l'autre. Et je pense que ce qui est difficile, et c'est ce que tu évoques, c'est de te dire à quel point je fais confiance et à quel point je vais dans cette voie et comment j'évolue. Mais d'un côté, tu as aussi la réalité du business où tu dois aller hyper vite.
C'est clair.
Et dans quelle mesure tu as le temps aussi de faire cette analyse de marché quand tu as des enseignes qui te font confiance pour lancer ton produit, quoi.
Mais il faut s'écouter, en fait. Depuis, ça m'a servi d'expérience parce que des fois, on a tendance à faire confiance et à se dire, je ne sais pas si ça t'arrive, mais se dire, ouais, il y a peut-être raison et tout. Et au fond de soi, on se dit que ce n'est pas la bonne méthode. Et en fait, toutes les conneries que j'ai fait là depuis 3 ans, c'est quand je me suis pas écouté ou quand je le sentais pas. Et je suis allé à reculons et au final, au fond de moi, je le sentais. Mais c'est pareil pour les gens. Des fois, on se dit, moi, des fois, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, ce mec-là, c'est un mec bien. Quand on le sent pas, on le sent pas.
Non.
Et au final, rarement on a tort au final.
Non, c'est sûr.
Avoir cette capacité à se dire, bah là, je le sens pas, j'y vais pas.
Et à s'écouter, et se faire confiance.
C'est clair.
Et ça t'apprends avec l'expérience.
Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah là, ouais, c'est bon, là, j'avais bien appris pour le coup.
c'est clair. Donc, des hauts, des bas, il y en a eu plein. Si tu reviens un peu en arrière, c'est quand pour toi l'apogée de Naka?
Bah, l'apogée de Naka, je dirais que finalement, elle est arrivée en 2023, quoi. Parce que, donc... Je reviens historique, on démarre grande épicerie, monoprix, donc vraiment la partie GMS. On faisait aussi un peu dehors domicile, mais très compliqué quand on n'a pas de monde sur le terrain. Donc tout ce qui est bar, etc. On a travaillé quelques grossistes sur la région, etc. Donc ça, bon, j'y croyais pas trop parce que voilà, je sais que en fait, il y a trop d'intermédiaires, c'est-à-dire il faut vendre un distributeur qui vend au bar, qui après faut être sur la carte, etc. Sachant que j'avais un produit qui voulait un accès direct au consommateur.
Oui, c'est ça.
Finalement, voilà, on est dans un rayon monoprix, on voit le produit, voilà, au milieu d'un linéaire.
Oui, tu veux avoir aussi une certaine maîtrise de la marque, comment elle est exposée.
Exactement. Et je pense que ce serait venu par la suite. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on est arrivé chez Monoprix Grande Épicerie. Derrière, on est arrivé chez Casino. Après, on a fait un testino chez Franprix. On est arrivé chez Franprix. Et là, 2023, bah, la consécration... C'est recevoir un prix innovation chez Auchan, recevoir la canette d'or, et avoir référencement Intermarché au champ national. Voilà. Donc ça, je dirais que c'était vraiment
la consécration. Donc ça, c'était octobre dernier.
Ça, c'était octobre dernier.
Octobre dernier.
Ouais. Et on nous a remis novembre la canette d'or. Et je dirais vraiment, la canette d'or, c'était... Enfin, c'est rigolo parce qu'il y a tellement de marques et on a reçu un prix parmi tellement de marques. Mais je veux dire, dans tout ce tas-là, les deux qui avaient le plus la banane, c'était Lorraine et moi, quoi. Parce que c'est vraiment... c'était un investissement difficile parce que c'était vrai party print, une canette imprimée sur ton direct, des aléas, des allers-retours dans tous les sens pour avoir un produit qu'on voulait idéal. Et avoir une consécration là-dessus, c'était vraiment... pour nous, le Graal. Donc, je dirais vraiment l'apogée, c'était ça. Et surtout qu'en fait, avec Auchan, Intermarché, tous les deals qu'on avait, puis ceux qu'on ne connaissait pas encore, on arrivait à avoir notre équilibre, notre rythme de croisière. Et ça nous ouvrait des perspectives sur pas mal de choses. Donc, je dirais vraiment l'apogée, il a été là. Il a été là. Et surtout de se dire, bah, on allait enfin être plus serein. Voilà. Et ça, c'était octobre-novembre 2023.
Et donc, fin d'année, un peu coup de massue, en fait. Donc, vous avez reçu un arrêté préfectoral qui vous a interdit, du coup, la commercialisation de votre boisson. La cause, le CBD. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'aspect, justement, réglementaire ?
Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, parler du moment où on a reçu ça, parce que voilà, il y a pas mal d'historique. Donc,
en fait,
la partie CBD, ça a toujours été un segment qui a été compliqué, parce que différenciation avec le THC, il y a eu beaucoup de décisions de justice, beaucoup d'allers-retours.
Et même au-delà de ça, tu vois, on parle de la partie justice, mais il y a la partie aussi consommateur et shopper. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer.
Mmh.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de la partie consommateur, c'est des consommateurs, pour moi, que tu touches, qui sont déjà au fait, en fait, de cette, du CBD et qui connaissent déjà, à mon sens. Hein. Après, je suis peut-être
non,
en faux, mais...
Non, t'as tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 70% des Français qui connaissent le CBD. Parce que ça a quand même fait, il y a quand même eu beaucoup d'articles dessus, c'est un sujet qui a été traité. Et il y a quand même un peu, alors c'est estimé, hein, c'est des sources de syndicats, mais il y aurait 17% de consommateurs.
Okay.
Donc ça veut dire que quand même déjà, le produit aujourd'hui est quand même bien installé. Et en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours à l'époque parce que il y a eu la fleur, il y a eu des alors j'essaie de revenir un peu en arrière, mais en gros, l'État a dit que le CBD était très pouvait être traité de différentes manières. Donc ça veut dire qu'il rentre dans différentes catégories. La première catégorie, c'est l'industrie du tabac.
Oui.
Donc fumer le CBD, donc ça, il y a eu cas, etc. Ça a été validé. Donc ça, aujourd'hui, vous pouvez acheter du CBD en bureau de tabac pour le fumer. Il y a un peu des traces de THC, parce qu'il y a toujours des traces de THC dans le CBD. Sur un produit brut, c'est évident. Donc bon... Après, j'ai pas voulu aller dans cette catégorie-là parce qu'avec tous les problèmes de combustion, etc. Enfin voilà, je voulais pas rajouter à l'industrie du tabac encore autre chose. Mais bon, ça c'est autorisé. Bon, ok. Ensuite, il y a la partie pharmacie, parapharmacie, les crèmes, etc. Haute catégorie. Donc ça, pareil aussi, ça a été validé il y a pas très longtemps aussi. Mais ça a été autorisé. Là, il n'y a pas longtemps, il y a la partie médecine, donc thérapeutique, c'est en troisième catégorie. Et ça, c'est pareil, il y a eu une décision, il y a eu une étude qui a été faite depuis 2 ou 3 ans, je crois, sur l'efficacité du CBD en thérapeutique. Et là, il y a 2 ou 3 semaines, ça a été validé pour la partie thérapeutique. Donc ça veut dire que maintenant, ça va pouvoir rentrer dans des médicaments.
Donc là, tu te dis en fait que tous les voyants sont au vert.
Toutes les catégories. Sauf...
Et même au-delà de ça, je pousse encore le trait encore plus loin, même sur la partie cannabis, tu as de plus en plus de pays qui...
Ah oui, alors ça, c'est encore
un autre sujet.
C'est encore un autre sujet, oui.
Mais tu te dis que... Enfin, le CBD, où t'as pas la molécule THC, ça devrait, sur le principe, pas poser de problème.
Exactement. Alors c'est, en fait, je suis totalement d'accord avec toi, sauf qu'effectivement, le sujet était un peu épineux, mais on a sorti la partie THC. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un autre débat.
Oui,
je pense que la France n'est pas prête. Les États-Unis l'ont fait, le Canada aussi. Peut-être que l'Angleterre, enfin bon, en tout cas en France, c'est pas un sujet. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que le CBD est finalement une bonne alternative au THC. Le THC, il va encore avoir des décennies de remue-ménage là-dessus, mais voilà. Et en fait, il faut qu'on. Donc, la partie THC, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cannabis. Voilà. Enfin, le cannabis. Et après, le chanvre, sativa, elle, c'est, voilà, ça, c'est vraiment la plante de chanvre. Et dedans, la molécule de CBD. Voilà, c'est vraiment deux catégories différentes. Mais oui, effectivement. Ça, c'est encore un autre,
c'est un autre sujet. Mais je trouve que c'est important quand même de l'évoquer. Oui. Parce que, évidemment, dans les personnes qui nous écoutent, la question se pose aussi. On a eu toutes et toutes, je pense, le débat à un moment. Pourquoi pas légaliser, ou ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc voilà, mais c'est un autre sujet, mais autre je trouve sujet. Que c'est très lié.
Mais c'était bien parce qu'en fait, je trouvais qu'avec le CBD, je trouve toujours d'ailleurs qu'il y a une vraie alternative. Ouais. C'est-à-dire que si pendant des décennies, on a eu un problème avec cette histoire de THC, ben là, j'ai envie de dire, on a trouvé un truc qui soit bien. L'OMS a dit qu'il n'y avait pas d'accoutumance, qu'il n'y avait pas de dépendance, qu'il y avait. Enfin, tout. J'ai envie de dire, super, quoi.
En fait, t'as les bénéfices.
Ouais, c'est ça. Ouais. Sans les côtés addictifs, etc. Donc, se dire, bah, finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et sortons du diable. Enfin, de diaboliser cette plante de chanvre qui est utilisée en Europe et en France depuis des années, trouver une alternative qui soit bien.
Et là, comment ça se porte justement l'industrie du CBD justement sur ces autres marchés, donc que ce soit la partie à fumer, ou la partie pharmaceutique.
Ça, c'est vrai que c'est des univers que je traite moins. Après, bon, dans tous les cas, ça reste un peu niche, parce que voilà, c'est aujourd'hui, ça reste un peu niche, mais bon, quand il y a 17% des gens qu'on consomme, je me dis que c'est quand même assez balèze.
Quand tu dis qu'ils en consomment, c'est sous n'importe quelle forme.
Exactement, ouais. Après, dans les grandes lignes, en gros, 70% de la consommation, elle doit être dans les fleurs à fumer. Et après, les 30% autres, alors il y a un peu les crèmes, et après, il y a la partie alimentaire. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a parlé de tout sauf la partie alimentaire. Parce que
du coup,
je vais y revenir. Parce que là, voilà. Mais en fait, avant de parler de la partie alimentaire, c'est de se dire aujourd'hui, et tu reviens à ce que tu dis tout à l'heure sur la partie consommateur. Donc aujourd'hui, comment le consommateur va capter que déjà le CBD rentre dans plusieurs catégories, et comment il capte que dans une catégorie et pas dans une autre, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Surtout qu'il y a un truc que moi, j'arrive pas à comprendre dans toute cette histoire, c'est le côté tabac. C'est là, je j'arrive pas à me dire que moi, je puisse pas vendre et qu'on puisse acheter une fleur avec tous les problèmes de combustion, enfin, dans cette industrie où c'est compliqué, et ben là, on peut.
Mais alors, explique-nous sur la partie réglementaire. Donc, toi, quand tu lances l'activité, tu peux tout à fait commercialiser une boisson à base de CBD?
Alors, je mets une petite nuance, parce qu'en fait, en gros, 2019-2020, c'est là où, en fait, l'Europe, donc l'EFSA, pour tout ce qui est nouvelles molécules, ça s'appelle un agrément Novel Food. Donc aujourd'hui, c'est un avis qui est remis par l'EFSA, donc c'est l'European Food and Safety Authorities, qui est à Parme, en Italie. Et en fait, qui statue, donc ça peut marcher, enfin, il statue sur beaucoup de choses dans l'agroalimentaire, hein, ça peut être sur les engrais, etc., glyphosate, enfin, tout ça, ça fait partie des choses qu'il traite. Et en fait, pour tout produit qui n'a pas d'historique de consommation en Europe avant 1997, c'est considéré comme novel food. Exemple assez simple, les insectes. En Europe, on ne consommait pas d'insectes. Du coup, c'est rentré dans la catégorie novel food. Donc, les industriels ont dû justifier l'alimentarité du produit. Donc, en donnant, bah, c'était peut-être plus simple à l'époque parce qu'ils avaient des historiques de consommation dans d'autres pays avec, qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, l'Europe a décrété que le CBD rentrait dans la catégorie novel food à partir de 2020. Et alors, ça a été un peu controversé parce que, en fait, ils ont dit, mais attendez, pourquoi Novel Food, le chanvre, jusqu'à preuve du contraire, on en consommait graines de chanvre, huile de chanvre, tout ça, avant cette période-là. Donc, alors, il y a eu pas mal d'aléas, c'est sorti, enfin, il y a eu vraiment un déséquilibre juridique dans l'Europe parce que ça s'est pas mal battu là-dessus. Et au final, ils ont dit, bon, ok, la fleur brute, c'est pas Novel Food, par contre, l'extrait de chanvre est Novel Food parce que nouvelle technique, etc. Donc, si bien que moi, du coup, c'était quand j'étais en train de travailler sur le sujet, je me suis dit, bon, nous, on veut utiliser un extrait. Pourquoi un extrait? Parce que pas de traces de THC, produit plus sécur, produit avec plus d'historique, produit tracé, produit certifié, etc. Je voulais pas encore partir dans un truc où ça soit une infusion d'un produit où je sais pas ce qu'il y a dedans, ou des pesticides, etc., d'une infusion avec aucun contrôle, etc. Donc, j'ai dit, ok, pour l'extrait, Novel Food, pas de souci. Dépôt de dossier en 2020. Traitement des dossiers 12 à 18 mois. J'ai dit, bon, bah, finalement, le temps que je développe mon parfum, etc., le Novel Food va avancer. Donc, les dossiers ont bien été déposés par les différents industriels. Et en fait, tous les 6 mois, l'EFSA a repoussé de 6 mois la remise de son avis. Si bien qu'on est en 2024 et aucun dossier qui a été autorisé en Novel Food en CBD.
Mais du coup, ce qui fait que tous les industriels qui commercialisent du CBD...
En alimentaire,
ils sont... Enfin, vis-à-vis de la loi...
Eh bien, en fait, ils sont comme moi.
Ok.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune autorisation sur le marché en Europe qui a été délivrée pour l'alimentaire en CBD.
Mais jusqu'à présent, avant qu'il y ait justement cet arrêté, enfin, ce décret qui passe, vous aviez la possibilité de commercialiser ou vous étiez un entre-deux?
Ben, on était sur la remise de l'avis de l'EFSA.
D'accord.
Donc, en fait, je peux pas dire que je le savais pas parce que
non mais c'est juste pour bien comprendre.
On le savait et après on avait même avec la DGCCRF, ils sont venus nous auditer, on avait souvent des échanges, ils nous ont aidés sur la partie étiquetage, etc. Donc on veut dire on était quand même proche des autorités parce qu'en fait on a voulu un produit qui soit transparent. On n'a pas de problème à travailler, à soumettre un dossier, c'est pas un problème. Nous ce qu'on voulait c'était prouver notre bonne foi, montrer que voilà. On a un dossier Novel Food qui est en cours d'instruction. Il est repoussé tout le temps, mais je veux dire, on est plutôt à l'aise là-dessus. J'allais pas dire je mets de l'huile de chanvre dans ma boisson alors que c'est pas le cas.
Non, bien sûr.
J'allais pas inventer une infusion quelconque.
Oui, tout à fait.
On a assumé du début jusqu'à la fin le produit qu'on utilisait. Et pour nous, voilà, préfère être honnête, amener tout ça sur la table, même si voilà, ça a pris du temps, qu'il n'y avait pas les autorisations qui ont été délivrées. Et pour ça qu'on est arrivé dans cette situation. Mais nous, c'est toujours, on a toujours joué l'honnêteté. Donc la DGCCRF, quand ils sont venus nous auditer début 2023, nous ont demandé l'état. Nous, on a dit, bah voilà, nous, notre dépôt de dossier de Novel Food par notre industriel, il a été fait en 2020, voilà où il en est, etc. Et de là, ils nous avaient donné des recommandations de mettre une limite sur le pack. On a modifié, voilà, on a apporté, dès le début, on a dit déconseiller aux femmes enceintes, aux mineurs, ne pas conduire et une limitation. On s'est mis comme si c'était de l'alcool. Principe de précaution pour éduquer le consommateur, pour lui dire, voilà, aujourd'hui, on le déconseille, en attendant que le Novel Food nous dise, bah voilà, ça on peut, ça on peut pas, etc. Donc voilà, on s'est mis en principe de précaution, on a toujours été transparent, donc on était en échange. Donc je reviens sur le fameux arrêté. Pourquoi l'arrêté ? En fait, nous, on est distribué donc, chez Monoprix, Franprix, Casino et autres. Et on a eu un prélèvement qui a été fait de notre boisson dans un Monoprix au Luxembourg. Et en fait, le Luxembourg a émis un niveau assez fort parce qu'il a émis une alerte européenne sur... en fait, il y a une plateforme européenne d'alerte en fait, sanitaire. Je sais pas s'il y a un problème à l'amende, etc. Voilà. Ou des rappels de produits. Et du coup, Luxembourg a dit bah voilà, la France a une entreprise qui commercialise une boisson au CBD qui est visiblement paraîtrait Novel Food, alors qu'il n'y a pas d'accréditation Novel Food. Donc, quid de ça. De là, donc, je reçois un mail de la DDPP, donc Direction départementale des protections des personnes. Alors, pour la petite anecdote, c'est encore sur la petite anecdote, donc, je reçois la canette d'or. Le jeudi là à Paris qui est remis par le ministre de Rugy d'ailleurs et le lendemain alors du coup moi la nature elle a jamais prendre de vacances ni de week-end et là par chance je partais en week-end et là j'arrive à la montagne pour passer un petit week-end, j'ouvre mes mails des formations professionnelles et je vois un mail de la DDPP alerte européenne retrait des produits convoqué mercredi prochain dans les bureaux. Je fais « Ok, bon bah sympa ». Et de là, il m'explique bah voilà, qu'il y a eu une alerte européenne du Luxembourg. Est-ce que vous pouvez nous fournir les données fournisseurs, produits, tout ce que vous avez, etc. De là, donc on y va avec Lorraine le mercredi. Et on sort tous les papiers, mais qu'on avait déjà... Enfin, voilà, tous les papiers. On montre, voilà, on en est du Novel Food. Enfin, on montre tout, l'étiquetage, tout ce qu'on a fait, tout bien. Et nous, on était plutôt optimistes parce qu'on s'est dit « Bon, que le marché, vu comme il s'est installé, de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, le nombre de produits qu'il y a en alimentaire, etc., et vu notre bonne foi qu'on avait eue depuis le début, on était plutôt optimiste. Et de là, une semaine avant Noël, j'appelle du coup la DPP, je leur dis « Bon, vous envoyez toutes les informations, où est-ce que vous en êtes, etc. » Et du coup, le technicien me dit « Bah, vous allez recevoir l'arrêté, là, en fin de semaine, en fin de semaine, on peut rien faire contre. Ok, et là je reçois l'arrêté préfectoral le 21 décembre 2023, 3 jours avant Noël, joyeux Noël. Et du coup, je passe ma semaine de Noël à retirer tous les produits des rayons de tous nos clients. Voilà. Parce que du coup, arrêté préfectoral, décision de justice, donc on ne peut pas faire face, on doit retirer les produits.
Et là, au niveau de la réglementation, donc c'est le cas pour tous les produits à base de CBD en alimentaire.
Exact. Bah, alors,
peu importe, parce que tu vois, je me disais en termes de réglementation, peu importe où ton siège social est basé, si par exemple tu as une entreprise qui est basée, ton siège social à l'étranger, qu'il est soumis aux mêmes réglementations? Et s'il vend en France, est-ce qu'il est soumis aux mêmes réglementations? Est-ce que tu as des ajustements juridiques? J'en sais rien, je pose des questions parce que j'y connais absolument rien.
Bah là, en fait. Nous là, alors ce qui est compliqué en fait sur ce sujet là, c'est qu'on est les seuls à avoir reçu ça en fait.
Okay.
Voilà, donc en fait, déjà la première complicité, c'est de se dire aujourd'hui, je sais pas, on est 6 ou 7 acteurs de boissons CBD, je suis le seul qui est arrêté. Pourquoi? Parce que je suis le seul à avoir une alerte européenne et qu'après ils sont pas allés chercher plus loin et nous ont arrêté nous. Parce qu'en même temps, au-delà de ça, après attention, je veux pas mettre tout le monde dans la corbeille,
mais.
En fait, il y a tellement d'entreprises et tellement de monde dessus, parce que si je prends déjà toutes les boissons au CBD, mais après il y a le miel au CBD, le chocolat, il y a tout, même les huiles qui sont sublinguales, c'est alimentaire. Et là, vous mettez des dizaines, des centaines d'emplois qui sont arrêtés si on arrête toute la profession. Donc moi, je me suis pris un arrêt arbitraire sur moi, mais je suis loin de représenter toute la profession. Voilà, c'est ce qui est un peu particulier dans ce dossier, c'est ce qui crée aujourd'hui une vraie injustice, parce que j'ai aussi des concurrents étrangers qui continuent à commercialiser en France, ce qui est assez.
Non, non, mais c'est pour ça que ça intéresse. Enfin, c'est justement pour ça que je te posais la question.
Ouais, aujourd'hui, l'arrêt qu'on a eu, c'est sur nos produits. Voilà, aujourd'hui, c'est les deux produits qui sont au CBD qui sont arrêtés. J'ai pas une fermeture administrative de l'entreprise. Donc, je veux dire, si j'avais deux produits qui étaient tout autres, si j'avais deux boissons au citron, je pourrais les vendre. Donc, c'est ça qui est bien aussi. C'est les deux produits au CBD qui sont arrêtés parce que Novel Food. Et la décision est plutôt bien alimentée parce que la France dépend de l'avis de l'EFSA, de l'Europe. Il n'y a pas d'avis du tout. Il n'y a pas non-oui. Mais en attendant d'avoir l'accréditation, on ne peut pas commercialiser. Donc, arrêt des produits.
Tu reçois ça, tu es dans cette situation. Est-ce que déjà tu t'y attendais que ça aille aussi vite?
On était assez optimistes parce qu'on s'est dit qu'on avait quand même globalement fait les choses du mieux qu'on pouvait. Et donc nous, on était plutôt optimistes. On a reçu la décision, on a dû retirer les produits. On s'est dit, on va faire des recours juridiques parce qu'en plus, on avait trouvé une jurisprudence du chanvrier français qui avait des produits au CBD alimentaire, CBD, bonbons, chocolat, etc., qui avait une jurisprudence favorable où finalement leur arrêté avait été suspendu. Donc nous, on était plutôt optimistes et on a travaillé avec nos avocats pour notre défense. Donc on a fait des référés donc, au tribunal administratif, qui est une procédure judiciaire pour suspendre la décision. Et en fait, on a fait 3 référés et on a eu 3 ordonnances de rejet. Donc les 2 premières, on les a eues pour motif d'urgence. Donc, curieux, mais bon, ok. Et la 3e, donc sans audience. Okay. Donc voilà, on a fait les 3, voilà. Et j'ai envie de dire, d'un point de vue juridique, je ne peux pas tellement dire, parce qu'au final, on a fait les 3 procédures qu'on avait. Et maintenant, on est une petite structure, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens maintenant d'aller sur un degré au-dessus de droit. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Et en fait, depuis, ça a nécessité de mettre l'activité en sommeil. Donc, un peu à crève-cœur, mais c'est diminuer tous les frais de l'entreprise. Donc, licenciement économique des salariés. Et puis après, jusque rendre les bureaux, la voiture, le téléphone, toutes les charges de l'entreprise. En attendant, ou éventuellement... ce qu'on a demandé d'un point de vue juridique, c'est des mesures transitoires. Parce qu'en Angleterre, par exemple, ils ont des mesures transitoires, parce qu'ils ont leur propre Novel Food. Mais en fait, l'État a dit, les entreprises qu'on commençait à commercialiser, on les arrête pas, parce que nous, c'est le business, voilà, mais on donne des pré-autorisations, on ne veut pas de nouvel entrant en attendant la validation définitive. Et nous, ce qu'on demandait, c'est des mesures transitoires, même à la DDPP, de se dire, nous, aujourd'hui, il manque que des données au niveau du foie, des analyses qui doivent être fournies par les fournisseurs pour valider le CBD. Donc nous, c'est quelque chose qu'on peut communiquer auprès de nos consommateurs s'il manque que ça. Mais nous, ce qu'on demande, c'est une mesure transitoire en nous permettant de continuer à commercialiser en attendant l'accréditation. Et j'ai envie de dire, si ça n'avait pas été autorisé dans le tabac, dans le thérapeutique et dans le pharmaceutique, j'ai envie de dire, on aurait arrêté depuis longtemps.
Et effectivement.
Et là, comment le consommateur va comprendre que NACA a été arrêté et que dans l'alimentaire, tout le monde travaille et dans toutes les autres catégories, tout le monde travaille. C'est ça, en fait, qui crée un vrai déséquilibre dans cette histoire, quoi. Et du coup, moi, je me retrouve aujourd'hui avec mon dossier NACA sous le bras et à essayer de faire en sorte d'entendre ma voix sur les réseaux sociaux, d'un point de vue politique, etc.
Est-ce que aujourd'hui tu as des ajustements au niveau des produits ou même stratégie marketing? Tu as pensé à commercialiser d'autres types de produits qui ne sont pas à base de CBD? Je sais que ça fait partie d'une des alternatives, en revanche c'est pas dans l'ADN de NACA. Mais est-ce que tu t'ouvres à ce type de solution ou à l'inverse non?
Effectivement, ça fait depuis déjà quelques semaines je réfléchis à toutes les alternatives. En fait, déjà il y a une première difficulté qui est de se dire quand tu as une boîte qui est à l'arrêt complet de chiffre d'affaires, de tout, c'est que en fait, ça nous voit une vraie complexité en termes économique sur l'entreprise. Donc déjà, c'est pas évident de sortir un produit quand la boîte elle tourne, c'est encore moins évident quand elle tourne pas. Donc après, évidemment, les consommateurs, tout le monde me dit enlever le CBD du produit. Mais j'ai envie de dire, c'est pas l'ADN. Et après, j'ai envie de dire, ça va me coûter aussi cher de redévelopper un produit le même sans CBD que d'attendre que l'autorisation. Donc éventuellement, ça serait sortir une autre gamme de produits sur autre chose en attendant d'eux. Donc j'y réfléchis, il faut que je cherche les alternatives pour le faire. Donc j'ai un peu de tout qui est sur la table. C'est juste que là, les contraintes d'urgence et les contraintes de coût, c'est diminuer, en fait, c'est mettre l'entreprise au minimum.
Voilà. Et puis tu as aussi la partie, évidemment, alors tu parles de frais de structure, mais tu as aussi la partie client et consommateur. Comment tu fais pour continuer à entretenir le lien avec tes clients? Comment a été l'accueil de tes enseignes, de tes distributeurs, et puis aussi le lien que tu maintiens avec tes consommateurs?
Alors déjà, il y a eu beaucoup de bienveillance dans tous les cas, de tous nos partenaires. Alors déjà, pour la partie client, tout ce qui est Monoprix, Grand Épicerie, en fait, ils connaissent la problématique aujourd'hui qu'ont les petites entreprises sur le marché, et de voir une petite... En plus, nous, on a toujours beaucoup travaillé pour avoir des vraies relations, il y avait des vrais partenariats, et vraiment, ils ont été très peinés de cette situation pour nous. On l'a toujours joué en toute transparence, disons, et donc beaucoup de bienveillance. Donc sur la partie client, sur la partie fournisseur, c'est pareil. Et après sur la partie consommateur, on a eu, sur LinkedIn, sur tous nos réseaux sociaux, on a eu beaucoup de messages d'encouragement. Voilà, toujours quelques détracteurs sur le sujet CBD par manque de connaissance du sujet. Mais après voilà, j'ai beaucoup de soutien parce que en fait les gens sont attachés à NACA. Et ils ont envie qu'on reparte. Et moi aussi, j'ai envie que ça reparte. Parce que je sais que ça repartira à un moment donné. Donc voilà, vraiment, maintenant, déjà, on a communiqué avec beaucoup de transparence. Voilà, on dit où on en est, ce qui se passe. Voilà, on ne cache pas.
Bien sûr. Voilà. Et c'est important de le communiquer avec...
Mais après, c'est que ce n'est pas évident.
Mais ce n'est pas évident. C'est courageux aussi.
J'ai vu un copain ce matin, il m'a dit, putain, j'ouvre ton Instagram, ça a envie de... ça mène des primes. Je vois que... Lorraine part, tu rentres tes bureaux, etc. Comment ça va? Les gens sont inquiets. Après, je suis un naturel combatif. Et moi, l'idée, c'est que je vais continuer à me battre et après, je remets tout le monde dans le navire. À rigueur, les téléphones, bureaux, je m'en fous. Moi, ce que je reveux, c'est que je reveux mon produit, je reveux mon équipe. Voilà. Et c'est mon combat, il va être là maintenant, dans les semaines et les mois à venir. C'est de remettre tout le monde dans le bateau. Et pour ça, toujours garder le lien avec les consommateurs, leur expliquer... communiquer beaucoup sur LinkedIn, l'incompréhension déjà du sujet. Et après, j'ai envoyé des mails à des députés, s'il y en a qui m'écoutent, sur le côté politique, parce que là, la DGAL, Direction Générale de l'Alimentation, qui dépend de l'agriculture, notamment, c'est en partie grâce à eux que j'ai eu l'arrêté, enfin, ou à cause d'eux. Donc voilà, c'est discuter avec ces gens-là, en fait. Aujourd'hui, c'est discuter et dire « je comprends pas », aidez-moi, parce qu'il y a du monde. Et je me mets à la place aussi de tous mes confrères. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'épée de Damoclès, je l'ai pris au-dessus de la figure. Eux aussi l'ont. Et c'est pas normal qu'on se retrouve dans des situations comme ça où on est complètement cristallisé et qu'une administration mette 5 ans pour répondre à un dossier, quoi. Je sais ce que j'ai envie de dire. Où est l'innovation, quoi? Ça veut dire quoi? On va devoir sortir un jus de fruit à la pêche pour, et ça sera ça l'innovation de demain? Donc je veux dire, faut arrêter de mettre aussi, alors là je suis désolé, je pars sur mon discours un peu politique, mais faut arrêter que ça, les licornes en France, faut arrêter que ça soit que des entreprises dans la tech, quoi. Enfin je veux dire, on a un pays d'agriculture, on a un terreau, un tissu économique qui est ultra favorable, faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues et de mettre que des licornes valorisées à 1 milliard, quoi. Ça peut pas être le producteur du coin, enfin voilà. Donc tout ce discours là que j'ai envie de mener de front, et de se dire que voilà, au-delà de Naka, c'est le Made in France, quoi, d'une manière générale. Encore, on l'a vu sur les actus de cette semaine. Enfin, c'est fou qu'on sabre tout le temps nos entreprises, quoi. Et à un moment donné, on ne peut pas être un peu supporté ou être un peu aidé. Voilà, c'est tout ce discours que j'ai envie de porter.
Mmh. Voilà. Et là, parce qu'on est en transparence et tu me dis si je vais trop loin dans mes questions, non. D'un point de vue économique, ta boîte est en stand-by. Comment tu fais pour trouver une certaine source de revenus?
Alors bah, du coup c'est là où on est encore bien entouré, donc c'est avec Patrick. Donc Naka a été racheté l'année dernière par Allgreen à 51% pour avoir des outils financiers, d'être adossé à un groupe pour avoir des aides comptables, etc. Donc il y a Allgreen qui nous aide, voilà, financièrement pour passer la vague. Donc bon, sachant que nous, l'idée, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre les frais au minimum, de se mettre en veille. Voilà, on se met en sommeil on cherche des alternatives. Mais on panique pas, c'est-à-dire que voilà, on prend les mesures qui sont douloureuses mais nécessaires. Donc je reviens sur les équipes, les bureaux. On se met en veille et maintenant on travaille le fond pour essayer de trouver des alternatives. Parce qu'on a quand même une marque, on a 3 ans de boulot, on a une marque installée, des consommateurs qui nous suivent, qui nous apprécie. Donc ça, tout ça, on ne veut pas le perdre. Maintenant, on se calme, on réfléchit sur des solutions qui soient pérennes, intelligentes et surtout qui nous permettent d'avoir une légitimité et une pertinence sur le marché dans les années à venir. Voilà, c'est vraiment ça notre bataille maintenant.
Et comment justement les auditeurs qui nous écoutent, qui bossent entre autres en agro, peuvent aider Naka, ou comment on peut te soutenir? Parce que forcément, quand on entend ce discours, on ne peut pas rester... ça touche.
Oui.
Qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire et comment du soutien qu'on peut t'apporter?
Bah après, j'ai envie de dire... ne serait-ce que de nous suivre, de nous encourager, peut-être même me donner des conseils, je ne sais pas. Parce que au final, je touche à des domaines où j'ai jamais travaillé dessus. Politique, que ça soit un député, un sénateur, j'ai jamais rencontré, ou ministère de l'Agriculture. Ce que je cherche, c'est d'avoir des conseils, des aides là-dessus, vraiment. Et j'ai envie de dire, même un, ne serait-ce qu'un like ou un partage, j'ai envie de dire, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours un minimum. Et de se dire, aujourd'hui, moi, je me retrouve tout seul avec mon dossier sous le bras. Et je cherche de l'aide, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, chaque petite pierre peut un petit like, un petit partage, c'est déjà top. Et des conseils aussi, parce qu'on est toujours preneur de conseils.
Yann, pour conclure cet épisode, est-ce que de toute cette aventure que tu retiens, est-ce que s'il y a une chose que tu devrais partager avec une note positive, qu'est-ce que tu en retiens? Et sur quoi tu veux conclure tout simplement cet épisode?
Je voudrais conclure avec une citation de Jean d'Ormesson. Merci pour les roses, merci pour les épines. Dans tous les cas, j'aime toujours ce que je fais. Malgré toutes les difficultés, etc., j'aurais pas un seul regret. Et c'est vrai que souvent les gens... quand on entend des histoires comme ça, qu'on se dit, tiens, le mec il a créé le truc, ça a marché, là il se retrouve arrêté, etc. Les gens sont attristés, ou etc. Mais je veux dire, mais non, il n'y a pas à être triste. Il n'y a pas à être triste, au contraire. J'ai créé quelque chose, ça a fonctionné, ça a marché. Là, on a une embûche, ça repartira, j'espère, avec Naka. Et si ça repartira pas avec Naka, ça repartira avec autre chose. Donc en fait, il n'y a que du positif. Et voilà, en même temps, voilà, on s'est fait attraper Monoprix au Luxembourg, mais on n'aurait pas été chez Monoprix, on n'aurait pas connu notre histoire. Donc je ne veux pas qu'en fait cet exemple puisse donner l'impression à des gens de se dire « Ah ben non, je ne vais pas y aller parce que, voilà, parce que c'est innovant, parce que c'est machin. » Mais bien au contraire, allez-y, parce que oui, il y a des prises de risque dans tout. Il va y avoir des pépins, si ce n'est pas ça, ça sera autre chose. Mais je vous dis, ne battez-vous toujours et allez-y. Il ne faut pas que cet exemple soit de se dire « Bah tiens, bien fait pour eux » ou alors « C'est triste pour Naka ». Non, c'est pas du tout triste. C'est au contraire, c'est une belle aventure. Ça a toujours été une belle aventure. Parce que là, j'ai parlé d'anecdotes, mais j'ai que des bons souvenirs. J'ai une équipe formidable, j'ai eu un produit formidable, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais imaginé vivre. Que ça soit aussi des implantations à 5h du mat, mais je suis allé à la Plagne, à Paris, faire des animations, la grande épicerie, enfin, j'ai des tonnes et des tonnes de souvenirs et des gens que j'ai rencontrés et tout ça, et vraiment ça vaut le coup, voilà, malgré tout. Donc c'est vraiment une note positive.
Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques sur l'épisode ?
Et eh bien, sur LinkedIn, je suis bien présent sur tous les réseaux sociaux, mais LinkedIn, Yann De Kock, Yann Unaka sur Instagram, et après Unaka Drink, donc c'est toujours moi qui suis les réseaux sociaux. LinkedIn, faut pas hésiter. Alors, c'est vrai que avec les posts que j'ai fait, là, j'ai eu plus de 100 000 vues, j'ai eu énormément de commentaires. Là, j'ai enfin à peu près réussi à répondre à tout le monde, des messages de soutien, des idées, etc. Donc, voilà. Ne pas hésiter, si je peux prendre des conseils ou aider d'une manière quelconque, je le ferai avec grand plaisir.
Merci Yann, en tout cas, pour l'échange.
Merci Salomé.
Ultra transparent et ultra agréable, donc merci à toi.
Merci pour l'invitation, c'était vraiment top.
Avec plaisir, à bientôt.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt !